Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est L'idée livre, votre émission littéraire sur CFM le samedi à 18h et en rediffusion le mardi à 12h35. Vous pouvez aussi nous écouter directement sur le site de CFM, à l'émission L'idée livre ou en podcast quand vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va aborder la grande écrivaine qu'est Annie Ernaux avec Mémoire de fille chez Gallimard. Le mot n'est pas beau au féminin, à se terminer par vaine parce que le livre n'est pas vain, on dira. Loin de là, n'est-ce pas Monique ? Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Et Joël de la librairie La Folle Avoine. Bonjour Joël.
Bonjour Fred.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, Mémoire de fille avec nous?
Oui.
Parce que je sais que tu as aimé.
Oui.
Et
je vous parlerai, c'est difficile à dire, Red Marut, Traven, Fedge, c'est le même. Il a 18 identités, mais celle qui le fait connaître le plus actuellement, c'est Traven. B. Traven.
Who I am. Who am I? Donc, Annie Ernaux. Annie Ernaux, qui vient de publier son dernier roman, Mémoire de film. Roman, déjà, je commence par faire une petite erreur, parce que je crois que ce n'est pas un roman, ou elle n'appelle pas ça un roman. Elle a été, après ses premiers bons romans, le quatrième, La Place, qui date de 1984, a été couronnée par le prix Renaudot. Et elle n'a cessé de chercher la forme pour des récits qui s'appuient sur sa vie, ses souvenirs, pour écrire une histoire collective. Une histoire sociale. Elle est née en 1940 et ses parents tenaient un café-épicerie à Yvetot où elle va passer son enfance. Devenue agrégée de lettres, elle deviendra enseignante. Elle est l'auteur de, entre autres, La femme gelée en 1981, Passion simple en 92, L'événement en 2000 et puis en 2016, Mémoire de fille. Un livre qui se passe en 1958. Dans Mémoire de fille, elle, qui n'a pas encore 18 ans, arrive à S pour son premier poste de monitrice de colonie de vacances. Elle ne sait rien de la vie, éducation stricte dans une institution religieuse, enfin lâchée par sa mère qui veille sur sa bonne conduite. Beaucoup d'ignorance sociale et l'orgueil d'une reine, puis le rêve d'une histoire d'amour, même si elle lit Les fleurs du mal à la place de nous deux. Rapidement, après son arrivée, elle va passer la nuit avec le moniteur chef, qui va la déposséder de ce corps brutalement, sans qu'elle résiste. Et Annie Ernaux écrit « Il me semble que je ne peux m'approcher davantage de la réalité qui n'était ni l'horreur ni la honte, seulement l'obéissance à ce qui arrive, l'absence de signification de ce qui arrive. » Pour le lecteur aussi, c'est violent. On est des spectateurs impuissants de l'incroyable déroulement d'un mauvais film où la fille est raillée, moquée, bafouée, abandonnée par ce moniteur qui la reprendra une fois dans son lit, avant de disparaître définitivement de la colonie et de sa vie. Mais aussi, on peut s'approprier le récit, hein, comprendre le corps qui, après, va s'affoler et continuer une course folle qui fera d'elle une putain sur les bords. Ça, c'est entre guillemets. Alors, l'écriture des faits bruts engage dans ce temps de 58 avec la fille. C'est une manière aussi... Elle écrit en étant peu concernée, enfin, c'est ce qu'elle dit, par l'actualité de l'époque, pourtant lourde, à cause de la guerre d'Algérie. Et la grande affaire de Annie Ernaux, qui à l'époque s'appelle Annie Duchesne, occulte sa vie et sa vue au dehors des murs de la colonie. On a juste des images fugaces de lettres, entre guillemets, par avion, posées là, sur le bord d'une assiette. Et qui sommes-nous dans ce monde-là, cette fin d'adolescence rendue dans tous ses débordements, quand le cerveau se dissocie du corps, et qu'avoir lu Sartre n'est d'aucun secours? Je dis « nous », parce qu'elle touche là quelque chose dans le fondement de nos vies de filles, quelle que soit l'époque, marquée par une éducation, une culture et une classe sociale. Parce qu'on y revient avec Annie Ernaux à cette difficulté de trouver sa voie, quand les modèles proposés échappent à tous les repères sociaux connus. Et le récit découpe donc 2 ans dans la vie d'Annie Ernaux, où va se jouer l'avenir.
Voilà. Ces 2 années-là, en fait. Mais c'est-à-dire, c'est la violence et puis l'absence de sens qu'elle met ou qu'elle ne met pas, justement, dans tout ce qui lui arrive, enfermée dans cette colonie-là, parce qu'elle est vraiment enfermée, elle sait rien du monde, elle sait rien de ce qui se passe à côté. Et ça, ça va accaparer, cette histoire-là, ça va accaparer son corps, puisque bon, après, elle va devenir boulimique, enfin voilà, ça va accaparer son corps et son esprit. Et elle mettra 2 ans à grandir, mûrir, entre guillemets, pour se sortir de là. Et donc, ce qui est très, très étonnant, c'est la manière dont, 50 ans après, Annie Ernaux revient sur cette fille-là, cette fille qu'elle était, mais qu'elle n'est plus vraiment, quoi. Et elle entre dans l'écriture, justement, elle décide d'écrire, elle met 2 ans à écrire « Mémoire de fille ». Et elle décide d'aller jusqu'au bout pour, et c'est comme ça qu'elle le dit, accepter la pulvérisation des interprétations accumulées au fil des années. Je ne veux rien lisser. Je ne construis pas un personnage de fiction. Je déconstruis la fille que j'étais. Et donc ça, effectivement, c'est ce qui n'en fait pas un roman aussi, comme elle dit. Et tout son récit va basculer entre ces deux points de vue là. Quand elle parle de elle, c'est Annie Ernaux, Annie Duchesne, l'année de ses 18 ans. Et puis, elle écrit en femme d'écrivain, la femme qu'elle est aujourd'hui, écrivain. Et là, elle dit je. Et on est toujours dans ça s'articule tout le temps autour de ces deux points de vue-là.
Oui.
Et donc, elle dit très bien. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touchée aussi en dehors de tout ce qu'on peut retrouver. Tu disais les années d'adolescence, etc. Plus ou moins chacun, on peut y retrouver des petits cailloux, hein, de ce qui a été notre passé. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est effectivement ce travail d'écrivain, là. Cette déconstruction, comme elle dit, qui permet justement la construction du récit. Et ça, c'est une prouesse littéraire, quand même.
Ouais, et tu disais justement que quand tu avais commencé le livre, tu avais eu peur de tomber dans une autofiction, un peu narcissique, comme on en trouve beaucoup, mais voilà. C'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'il est assez surprenant aussi, parce que, voilà, moi, les premières pages, je me suis dit, oh là là, ça va encore être une histoire un peu glauque, voilà, etc. Et en fait, non, pas du tout. Et puis, ce qui est important aussi dans le récit, c'est quand même, elle a quelque part presque une mémoire de sociologue. Mmh. Elle interroge la mémoire, la sienne, mais aussi la mémoire collective, pour retourner sur ce passé des années 50-60. Et ce que tu disais tout à l'heure, tout ce qui est de l'ordre de l'intime et de l'individuel, ben, ça a toujours... ça prend toujours racine dans un contexte social, culturel, politique, familial.
Oui, et puis elle parle merveilleusement de cette mémoire. Elle dit à un moment, la mémoire de la honte, la grande mémoire de la honte, plus minutieuse, plus intraitable que n'importe quelle autre. Cette mémoire qui est en somme le don spécial de la honte. Et elle maintient une distance entre l'Annie Ernaux qu'elle est aujourd'hui et cette jeune fille qui était complètement... Enfin, je veux dire, omnubilé par cette ce désir
le désir de cet homme.
Voilà exactement. Et elle parle donc, elle en parle de manière impersonnelle. Et le jeu fait un jeu J-E-U entre le elle et le jeu.
Le
quoi.
Elle et le jeu J-E, oui.
Voilà.
Et elle dit ça aussi comme ça. Elle dit, c'est pour revenir sur cette absence de sens où on a l'impression que sur ces 2 années-là, elle s'est retrouvée dans une espèce un cercle d'événements où elle n'a rien maîtrisé, elle n'a rien compris, elle n'a pas vu du tout ce qui lui arrivait, elle n'a rien maîtrisé. Et Annie Ernaux dit ça comme ça, elle dit, c'est l'absence de sens de ce que l'on vit au moment où on le vit qui multiplie les possibilités d'écriture.
Oui.
Et donc elle a choisi de s'engouffrer dans cette brèche-là pour aller retrouver elle de ses 18 ans, quoi.
Oui. Et j'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit, mais je crois que quand je propose ce livre, je dis attention, chef-d'œuvre, parce que il y a ce travail d'écrivain, c'est un travail de création, et sa façon de construire ce livre-là avec ce regard extérieur sur quelqu'un d'intérieur qu'elle ne connaît plus, c'est bien, ça, c'est séparé par le sujet, c'est-à-dire elle, c'est la fille de 18 ans, et je, c'est la femme de 70 ans et quelques. Et cette séparation entre les deux permet de construire et de reconstruire la mémoire. C'est-à-dire quand on veut faire connaître le passé, soit on le réinvente, soit on se met du point de vue de la construction des petites pierres qu'on va élaborer. Et ces pierres, elle a pas mis 2 ans à l'écrire, elle a mis pratiquement 70 ans, c'est-à-dire depuis 58, elle écrit ce livre. Et donc, elle a essayé de le réécrire avec son talent d'écrivains. Et vraiment, là, c'est une grande écrivaine. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi fort, aussi puissant, en 150 pages. Mmh. Cette oui, reconstruction et ce passage, c'est ça, la façon de passer la mémoire, le souvenir, le devoir de mémoire, c'est une façon extraordinaire de nous le faire sentir. Comment on peut aller sur les faits, sur le moment, et depuis maintenant.
Et pour mieux rentrer dans l'écriture de Annie Ernaux, il y a des entretiens qu'elle a fait qui s'appellent l'écriture comme un couteau et on découvre tout son travail d'écrivain, de grand écrivain, je dirais, sur la mémoire et je pense que c'est vraiment une grande spécialiste de ça. Et ce qui saute aussi aux yeux dans la mémoire de fille, c'est une urgence d'écrire et qui justifie l'écrivain qu'elle est aujourd'hui. Et elle dit, c'est aussi très touchant ça, elle dit « Souvent je suis traversée par la pensée que je pourrais mourir avant la fin de mon livre ». Et c'est une phrase qu'elle a eue dans un entretien qu'elle a donné au Monde.
Nécessité d'écrire. Ouais. Mais je crois qu'on ne vous avait pas parlé parce qu'il y a un côté universel de ce livre. Ça s'appelle « Mémoire de fille », mais c'est « Mémoire d'être humain ». N'importe quel être humain, un garçon comme une fille, traverse ces périodes-là. Et ce n'est pas par hasard qu'elle a des relations extrêmement intimes avec Héribon ou avec Eddie Bellegueule. C'est parce qu'ils ont aussi traversé des moments à ce moment-là avec la difficulté de les dire. Et Eddie Bellegueule a fait ce travail d'écrivain aussi, est arrivé au romancier. Et Héribon, lui, il reste, comme tu le disais, Monique, sociologue. Donc, il nous donne les faits et l'explication. Mais je crois que leur relation très proche, tous les trois, c'est bien, montre bien le côté universel du livre.
Oui, c'est vrai que dans une interview, là, on parle d'Edouard Louis.
Oui.
Mais bon.
Mais au niveau style, on ne peut pas comparer.
Non, c'est pas comparable.
Et je voulais dire une dernière citation que j'ai trouvée d'elle, où elle dit aussi que, par rapport à sa croyance en Dieu, parce qu'elle a été élevée dans la religion catholique, une religion catholique très très marquante dans son éducation, elle dit « Même si je suis persuadée aujourd'hui donc que c'est le néant qui nous attend, je fais comme s'il y avait quelque chose qui devait être sauvé et dont j'étais dépositaire. Ce n'est pas mon âme, c'est ce que je fais, c'est très différent. On pourrait dire que la littérature ou l'écriture a remplacé Dieu d'une certaine façon, ou encore qu'écrire est la mission qui m'a été donnée. » Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Et on va écouter Logical Song de Supertramp.
Oui, pour nos fidèles auditeurs, je me suis attardé la semaine dernière sur la révolution de 48 parce que B. Traven, né d'une certaine façon avec un copier-coller de 48 en Bavière, dans le royaume de Bavière, où en 1917, les métallos de Bavière en ont assez de travailler pour la guerre et se mettent en grève, et les 10 000 métallos qui arrivent devant à la capitale font en sorte que le petit roi de Bavière démissionne et s'en va, et se met en place un conseil, une république des conseils ouvriers, qui est, comme le dit Travaine dans un ouvrage qui a été publié, qui s'appelle « Dans l'État le plus libre du monde ». Ça va durer un peu plus d'un an, un an et demi, et pendant cet an et demi, il va poursuivre la publication d'une revue, qu'il n'avait pas trouvé d'autre mot, il appelle ça une revue, c'est-à-dire une publication régulière, une publication qui s'appelle, je ne l'ai pas en allemand, il s'appelle « Les fondeurs de briques ». Les fondeurs de briques, c'est ceux qui veulent détruire ces palais aristocratiques qui sont construits, et c'est une revue extrêmement pacifiste et qui va essayer de faire la propagande contre la guerre. Je vous rappelle qu'on est en 1917, 1918, et le peuple de Bavière, tout comme le peuple allemand et certainement le peuple français, en a assez de cette boucherie. Et donc, évidemment, les dirigeants, eux, n'en ont pas assez, en particulier les employeurs de ceux qui ont fait grève, c'est-à-dire ces Krupp, c'est la grosse usine, la grosse entreprise d'armement. Donc Bernard B. Traven donc va se trouver à la tête de cette publication. Le mouvement, c'est le mouvement spartakiste. On a entendu parler de Rosa Luxembourg, de Karl Liebknecht. C'est là que ça se passe, c'est en Bavière. Ils vont être arrêtés, ils vont être fusillés, si bien que Traven rentre dans la clandestinité. Et là, pour s'échapper, il va être obligé de prendre différentes identités. Donc, celle qu'il avait pour le moment, c'était Red Marut. Red Marut, celle qui va rester le plus longtemps. Il va en avoir des quantités d'autres. Et il va essayer de trouver un passeport né à Chicago en 1892. Et il va s'embarquer sur un bateau. Il va finalement trouver un travail de soutier sur un cargo. Et ce cargo, c'est un vaisseau flottant, c'est un cercueil flottant. Et en fait, il va rapidement comprendre que l'objectif, la cargaison, c'est pas ce que trimballe le bateau, mais la cargaison, c'est l'équipage. Parce qu'il est question d'aller noyer ce bateau au large, et de façon à ce que l'armateur touche l'assurance. Et donc, Traven va parler de cette expérience dans un ouvrage qui est magistral et qui s'appelle Le vaisseau des morts, un ouvrage qui est tout à fait d'actualité, parce qu'en fait, c'est l'odyssée des migrants sur ces bateaux qui en même temps transportent autre chose, mais qui vont amener, le cas échéant, de gens qui n'ont pas de papier, un petit peu n'importe où, et en même temps dans le trafic qui est mis en route. C'est le début de la mondialisation. Et Traven va nous parler de ce début-là. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que avec ce bateau, il atterrit à Tampico. J'ai pas résisté au plaisir de vous faire réécouter la chanson de Margaret par Monique Morelli.
C'est rue de la Crique que j'ai fait mes classes, au Havre dans un star tenu par Chloé. C'est à Tampico qu'au fond d'une impasse j'ai trouvé un sens à ma destinée. On dit que l'argent c'est bien inodore, le pétrole est là pour vous démentir, car à Tampico quand ça s'évapore, le passé revient qui vous fait vomir. Oui, j'ai laissé là mes joues innocentes, oui, à Tampico, je me suis défleurie. Je n'étais alors qu'une adolescente, beaucoup trop sensible à des tas de profits. Les combinaisons ne sont pas toujours bonnes, comme une vraie souris, j'ai fait des dollars. Dans ce sale pays où l'air empoisonne, la marijuana vous fout le cafard. On m'encourageait, j'envoyais de drôles, je vidais mon verre en fermant les yeux. Quand j'avais fait le plein, je voyais le pactole, et les connaisseurs trouvaient ça curieux. Une fille de 20 ans, c'est pour la romance. Et mes agréments semblaient éternels. Mais par-ci par-là, quelques dissonances en ont mis un coup dans mon arc-en-ciel. C'est là que j'ai laissé derrière les bouteilles le très petit lot de mes petites vertus. Un damné matelot qui n'aimait que l'oseille m'en a tant fait voir que je me reconnais plus. Oui, il m'a fait voir le ciel du Mexique et m'a balancé par un beau printemps. Parmi les cactus dans le décor classique où le soleil vous tue comme à bout portant.
Un petit matelot m'en a tant fait voir que je ne me reconnais plus. C'est tout à fait dans le ton du livre d'Annie Ernaux, donc dont vous avons parlé aujourd'hui, Mémoire de fille. Pour finir, je vous citerai une petite phrase que j'ai reprise encore dans Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques et de la lecture et de l'imagination. C'est Neil Gaiman qui dit que la fiction en prose est une construction que vous bâtissez à partir de 26 lettres et d'une poignée de signes de ponctuation. Vous et vous seul, en utilisant votre imagination, vous créez un monde, vous le peuplez et vous voyez par d'autres yeux. Vous avez l'occasion d'éprouver des choses, de visiter des lieux et des mondes que vous ne connaîtrez jamais autrement. Vous apprenez que tous les gens autour de vous sont des moi, eux aussi. Vous êtes quelqu'un d'autre et lorsque vous regagnez votre propre monde, vous allez en être légèrement changé.
La littérature comme arme de construction massive.
Merci Joël, merci Monique. Mathias était à la technique, au revoir à tous.
L'idée livre, votre rendez-vous littéraire vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.